La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Maud Descamps.
L'entrée dans l'automne, c'est souvent le cas d'une petite déprime saisonnière, hein. Vous serez d'accord avec moi, on a parfois des troubles du sommeil, on vit de rien. C'est pas toujours facile de se motiver, mais vous avez trouvé la solution, Maud, pour se reprendre en main.
Et oui, Raphaël, cette solution, ça s'appelle Mon Sherpa. C'est une application pour smartphone qui va vous accompagner au quotidien pour vous aider à résoudre tous ces petits tracas, le stress, l'anxiété, les insomnies. Cette application, c'est vous, Fanny Jacques, qui l'avez créée. Bonjour.
Oui, bonjour.
Fanny, Mon Sherpa, c'est mon coach au quotidien, c'est ça ?
Exactement, voilà, Mon Sherpa, le squelette de Mon Sherpa, c'est un petit chatbot. Donc un chatbot, c'est un petit robot conversationnel qui va discuter avec vous et qui va vous proposer des solutions au quotidien adaptées à vos symptômes selon ce que vous lui aurez décrit.
Donc c'est une application, je la télécharge et ensuite il se passe quoi ?
Alors, donc vous téléchargez l'appli. Pour l'instant, elle est sortie il y a 3 semaines, hein, cette appli. On a à peu près 600 utilisateurs, donc on est très contents. Vous téléchargez cette appli qui est sur iOS pour l'instant et qui va arriver sur Android. Et le Sherpa va vous poser des questions. Alors, il faut savoir que moi, je suis médecin psychiatre. Donc, les questions sont issues de questionnaires d'évaluation scientifique, sauf qu'elles sont faites de façon plus ludique qu'au cabinet du médecin. Donc, il vous pose des questions auxquelles vous répondez et cela va vous profiler. Ça va retrouver peut-être des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs. Et ensuite, une fois que le Sherpa vous a profilé, eh bien, il va vous proposer des activités tout à fait adaptées aux symptômes qui ont été perçus. Activités qui sont écrites par un médecin psychiatre moi-même, par une psychologue qui connaît également très bien son sujet et puis par une assistante sociale pour tout ce qui est droit et démarches.
Comment ça se passe ? On peut le faire en cas d'urgence, si on a une montée d'angoisse, un moment de stress dans la journée, on peut se mettre sur l'application, on va tout de suite trouver une réponse
et être
aidé.
Oui, vous avez un bouton déjà SOS qui va vous permettre dans les jours à venir, mais là on peut déjà le faire, à prendre un rendez-vous de téléconsultation avec un médecin psychiatre, puisque c'est l'autre activité que notre société d'octopsie, voilà, dont on avait déjà parlé
vous
ensemble.
Vous étiez venu dans la France bouge l'année dernière.
Tout à fait, je vous en remercie. Donc propose. Donc on peut téléconsulter un médecin psychiatre assez rapidement, et puis on peut également trouver des activités de gestion de crise, gestion de la crise d'angoisse, gestion de la bouffée suicidaire. Donc c'est un compagnon vraiment du quotidien qui peut aussi aider d'ailleurs les patients qui sont suivis par un médecin. Entre deux rendez-vous, ça va vraiment leur permettre de poursuivre les exercices qui ont été initiés par le médecin, parce qu'évidemment on rechute pas le jour du rendez-vous avec le médecin, mais souvent hélas entre deux. Donc ça peut permettre au quotidien de continuer, d'avoir un fil rouge entre le médecin et nous-mêmes pour mieux suivre notre thérapie.
Que pense notre coach de Mon Sherpa ?
Alors moi, je voulais voir la différence avec les sites classiques qui donnent des conseils psy. Et donc, je me suis inscrite. J'ai essayé le chatbot. Alors d'abord, chapeau, parce que j'imagine que ça doit être pas facile au démarrage. Ça fait que 3 semaines que l'application est lancée. Donc, j'imagine qu'il va aller de plus en plus vite, qu'il va être de plus en plus pertinent, etc.
Mais oui, là, on est sur un bêta-test quasiment. Hein. C'est un démarrage.
Mais malgré tout, c'est intéressant parce que ça fait vraiment le travail, parce qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un qui s'inquiète de comment vous allez. Donc vous devez mettre un petit émoticône pour dire comment vous sentez et après, quelle est votre humeur. Après, vous choisissez une activité. Donc moi, j'ai choisi une activité, c'était faire face à ses doutes. Alors il me dit, mais alors vous avez une petite pensée qui tourne en boucle, c'est ça ? Et il répond comme ça. Donc on répond et puis il fait comme les vrais psychiatres.
Ah là, ça, on a voulu l'inclure quand même, on a trouvé ça.
Quand on va être obligé de s'allonger sur le divan, ça va être assez drôle, oui.
Voilà, donc ça faisait vraiment le travail. Après, il y avait le bouton SOS. Moi, j'ai pas osé appuyer sur le bouton SOS. Donc, vous avez répondu à ma question.
Non, mais les pompiers n'arrivent pas à la maison si vous appuyez sur le bouton SOS. Ne vous inquiétez pas.
Par contre, j'imagine que c'est quand même un sacré investissement. Quel est le modèle économique derrière ?
Alors, le modèle économique, c'est un modèle freemium. Pour l'instant, sur notre toute jeune expérience de quelques semaines, on a 2% de transformation. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, il y a des activités qui sont gratuites. Et puis, si le patient veut aller plus loin et débloquer l'ensemble des activités, il doit payer un abonnement mensuel à 5,99€. Pour pouvoir. Et puis l'idée là, c'est vraiment, donc, Là, on a fait une cinquantaine d'activités. On en a une cinquantaine qui sont en cours d'implémentation. Donc, parce que l'idée, c'est que le user ne s'ennuie jamais et qu'il trouve toujours des nouvelles activités comme celles que vous avez décrites. Et puis là, maintenant, on va commencer à travailler spécifiquement. On fait une douzaine d'activités sur les phobies. Si on veut traiter sa phobie de la souris, de l'avion, on va pouvoir travailler avec mon Sherpa. On va faire des activités sur le sommeil, sur le couple, voilà. On va alimenter
alors,
en permanence.
Une activité, c'est le chatbot qui vous pose des questions dédiées à ce problème particulier.
Exactement, et qui va vous donner des conseils. Alors, ce n'est pas ouvert, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas raconter votre vie au Sherpa et le Sherpa ne va pas vous répondre selon ce que vous avez noté. Hein. On y viendra, puisque ça existe. L'analyse lexicale, le repère de mots-clés, l'analyse de la vitesse de frappe, tout ça sont des choses qui existent et vers lesquelles, évidemment, on va tendre afin d'analyser de façon très fine les symptômes des patients. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Une activité, oui, c'est de la thérapie comportementale et cognitive, des conseils, du coaching au quotidien.
Maud ?
Très brièvement, pourquoi il fallait la développer, cette application ? C'est parti de quel constat ?
Alors, c'est parti, il y avait deux constats. Le premier, c'est que les patients ont du mal à accéder à un médecin psychiatre. J'espère pouvoir avoir résolu en partie le problème grâce à la téléconsultation. Le deuxième constat, c'est que même quand on est suivi par un médecin, généraliste ou psychiatre, entre deux rendez-vous en psychiatrie, on est tout seul. Et l'accompagnement au quotidien, on sait que c'est vraiment un gros gain pour améliorer l'observance thérapeutique d'une personne.
Ça s'appelle Mon Sherpa, c'est la solution. Merci Fanny Jacques d'être venue nous la présenter aujourd'hui.
Merci à vous. On a un Facebook Live le 4 décembre à 15h avec Christophe André pour en parler. Si vous voulez en savoir plus et répondre à nos questions.
Eh bien, vous avez tout dit. Merci d'avoir été avec
nous.
Merci
beaucoup. Au revoir.
Restez avec nous. On va parler Serious Game aujourd'hui. C'est la Paris Games Week, mais vous allez voir que le jeu n'est pas fait que pour s'amuser. Il peut aussi s'avérer utile, notamment dans le domaine médical.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, si vous nous rejoignez. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le monde des gamers, ce qui est devenu un véritable univers dans notre société. Il se trouve qu'en ce moment, c'est la Paris Games Week. Alors, on a eu envie de vous montrer que le jeu vidéo n'est pas fait que pour s'amuser, qu'il peut avoir bien d'autres utilités. On a donc choisi de s'intéresser ensemble aux Serious Games, les jeux sérieux, autrement dit. Bonjour Pierre-Alain Gagne.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Dowino et vous créez ces Serious Games, hein, puisque ça s'appelle comme ça, à impact social. Vous avez notamment mis au point Smoke Eaten, le jeu vidéo pour arrêter de fumer. Ça tombe bien, c'est à partir de demain le mois sans tabac qui commence. Racontez-moi comment on fait coïncider l'univers du gaming, du jeu vidéo et l'impact social ou sociétal.
Eh bien, ça a été la question qu'on s'est posée quand on a créé l'entreprise avec Jérôme et Nordine, mes associés, il y a 6 ans. C'était de
2013,
se dire,
oui,
2013,
c'est ça.
C'était de se dire, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est l'une des industries culturelles les plus fortes. Mais contrairement aux autres industries culturelles, comme le film, comme le livre, etc., il est très peu utilisé pour justement des causes sociales et sociétales. Alors que c'est très dommage, puisque c'est un média très interactif, très immersif, où on prend du plaisir, où on a des émotions. Et donc, on peut faire passer plein de messages. Et donc, après, comment on s'y prend ? Et ben, le but, c'est d'essayer de faire en sorte que le jeu soit un bon jeu, d'abord, pour que les messages soient le mieux appréhendé possible par ceux qui vont jouer au jeu.
Vous avez commencé par de petits projets pour une marque de papier éco-responsable, c'est ça ?
C'est ça, vous êtes bien renseigné.
Oui,
c'était au tout début, oui. C'était un jeu qui s'appelait Mon exploitation forestière, un jeu Facebook. Et donc, le but, c'était de faire comprendre qu'est-ce que c'est que du papier éco-responsable. Ce n'est pas juste du papier recyclé. Ça va beaucoup plus loin de ça, puisque bah, ça va du tout début de la chaîne, c'est-à-dire comment on plante les arbres, quelles essences d'arbres on met à côté de quelles autres, comment on les coupe, comment on les récolte, etc. Et bah, on a mis tout ça dans un jeu de gestion, où on doit gérer son exploitation forestière de la façon la plus durable possible pour gagner.
Et ensuite, vous avez produit un jeu vidéo, alors ça c'est fort, hein, sans images, à destination des personnes non-voyantes, donc jeu sonore, avec un joystick, une manette. Ça s'appelait Blind Legend, c'est ça ?
A Blind Legend, oui, tout à fait.
C'est un chevalier qui va libérer sa dulcinée ?
C'est ça le pitch de oui. Départ, mais c'est un chevalier
et
aveugle.
On entend le cheval arriver, donc on l'entend à droite ou à gauche. On sait comme ça se diriger.
Exactement, c'est un jeu en 3D, sauf qu'au lieu d'être dans un environnement 3D visuel, on est dans un environnement 3D sonore. Et donc, on a un casque audio, quoi. Et on entend tout ce qui se passe autour de soi en trois dimensions, comme dans la vie de tous les jours. Et on va interagir avec cet environnement. Et donc, le chevalier aveugle va être guidé par sa fille. Il va devoir la suivre que à l'oreille. Et il va lui arriver plein de bricoles. Et notamment, il va devoir monter sur un cheval, se défendre, mettre des coups d'épée, éviter des coups.
Oui, c'est bien parce que ça sensibilise aussi les voyants. Depuis 3 ans, vous travaillez là pour le coup sur le fameux jeu qui concerne le tabac, Smoke It End, c'est-à-dire arrêter de fumer. Vous avez développé l'idée avec des tabacologues. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler avec eux? Comment est-ce que vous avez mis leur savoir dans votre jeu?
Alors ça a été assez compliqué hein, puisque on a des métiers très différents, mais ce qu'on a constaté, c'est que quand ils nous parlaient des solutions pour arriver à arrêter de fumer, ils nous disaient qu'il fallait beaucoup de motivation, beaucoup d'encouragement, du réseau social, beaucoup d'engagement, et que tout ça, c'était des leviers du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on crée de la motivation, on crée de l'engagement, on crée une certaine progressivité dans le sevrage tabagique aussi. Et on peut faire des jeux où on échange avec les autres joueurs, etc. Ce qui est le cas dans Smoke It End. Et du coup, on s'est dit, en fait, les besoins et les moyens collent bien, donc on peut y arriver.
Donc ça marche aussi par palier, comme quand on essaie d'arrêter de fumer, c'est ça?
Exactement. En fait, le jeu vidéo marche assez souvent par palier.
C'est un petit chat, c'est ça, le personnage.
C'est un petit chat qui lui aussi doit arrêter de fumer, puisque de fait, il est sur une île déserte, donc il n'a plus le choix. Et donc, on va devoir l'occuper par tous les moyens pour arrêter de fumer, en lui faisant faire toutes sortes d'activités pour gérer son stress, de la boxe, de la course à pied, de la montgolfière, du yoga. Et du coup, en fait, le joueur va, en s'occupant du petit chat, en fait, il va s'occuper de lui surtout et ne pas fumer de cigarettes.
Ouais, et puis la bonne nouvelle, c'est que ça coûte 5,99€ le jeu, une fois qu'il est téléchargé, contre un paquet de cigarettes qui, lui, va bientôt passer au-delà des 10€. Marie, notre coach.
Alors, j'adore cette émission parce qu'à chaque fois, on découvre des choses incroyables et toujours étonnantes. Je ne connaissais pas les Serious Games et d'ailleurs, je trouve que le nom est peut-être mal choisi parce qu'on a plutôt l'impression que c'est des Impact Games. Ils ont un vrai impact, en tout cas, tous ceux que vous avez cités tous les deux. Par rapport à votre jeu pour arrêter de fumer, vous vous appuyez notamment sur une communauté d'entraide, c'est ça, de personnes qui arrêtent de fumer ou de personnes qui ont envie de les aider, qui disent ne craque pas Serge, ne craque pas Raphaël, c'est ça, dès qu'il y a des sujets. Je voulais savoir 2 choses. Vous êtes combien dans la communauté aujourd'hui pour vous entraider à arrêter de fumer? Mm-hmm. Et puis, où trouve-t-on ces jeux? Est-ce qu'on les télécharge? C'est une appli? Ça se trouve où?
Alors aujourd'hui, la communauté est de 2000 joueurs sur Smoke It End. Chaque joueur a la possibilité d'aider les autres joueurs quand il va recevoir des notifications, quand un joueur va appeler à l'aide, en fait.
Donc vous avez envie de fumer, vous appelez à l'aide sur le jeu?
C'est ça, quand on a envie de craquer, il y a un gros bouton help. On appuie sur help et la communauté va pouvoir mettre des messages de soutien.
Dire, tiens bon.
Et après, chaque personne peut aussi. Il y a des personnes qui peuvent aussi télécharger le jeu sans eux arrêter de fumer, juste pour aider leurs parents, leurs frères, leurs compagnes d'arrêter de fumer.
Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ça dure 3 à 4 minutes, hein, c'est ça, c'est pas un hasard, en fait, la durée du jeu. C'est aussi parce que quand on a envie de prendre une cigarette, moi je ne suis pas fumeuse, mais paraît-il, quand on a envie de prendre une cigarette, il y a des délais à respecter.
L'envie est très forte pendant 3-4 minutes, ça s'appelle des périodes de craving, alors, en français c'est les périodes de très forte envie de fumer. Et du coup, on a axé toutes les mécaniques de jeu sur ces 3-4 minutes. Et donc, on a une succession de mini-jeux en fait, qui durent chacun 3-4 minutes, qui ont un intérêt que pendant 3-4 minutes. Et après, l'idée, c'est que le joueur, finalement, pendant 3-4 minutes, il joue, il prend du plaisir. Mais après, ça n'a plus trop d'intérêt le jeu. Donc, il va reposer son téléphone et son envie est passée. Et pour répondre à la fin de la question, que je n'ai pas oubliée, où est-ce que ça se trouve? Ça se télécharge sur l'Apple Store et le Google Play Store. Et donc, c'est assez facilement accessible à tous. Et bientôt, ce sera aussi accessible avec une version entreprise. Là, pour le mois sans tabac, on a des entreprises qui vont utiliser le jeu pour aider leurs salariés à arrêter de fumer.
Maud, quand on joue à un jeu vidéo ou à un serious game ou un pact game, hein, si vous voulez, Marie, ce n'est pas la même stimulation qu'un jeu de société classique.
Exactement, et c'est justement pour ça qu'ils ont un fort impact. Ce sont des jeux qui vont solliciter plein de réflexes, plein de plans simultanément chez la personne qui va jouer. Ça va être sensoriel, cognitif, ça va être psychomoteur. Et ça, eh bien, ça va avoir un impact bien plus fort qu'un jeu classique, puisqu'on va associer à chaque fois un geste à un message qu'on reçoit. Et donc, ça va ancrer le message bien plus profondément.
On reste ensemble et on continue à parler jeu et serious game aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Et si le jeu vidéo pouvait aussi permettre la rééducation, c'est ce que fait Naturalpad avec Medimove. A tout de suite. La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et on parle cet après-midi des Serious Games.
Le jeu est un bon moyen de retrouver l'usage de ses membres. La rééducation est souvent longue, répétitive. Y ajouter une dimension ludique peut aider le patient à s'impliquer vite et mieux. Bonjour Antoine Seyès.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Naturalpad. Vous avez mis au point Medimove. Vous aussi, avec vos associés, vous vouliez avoir un impact positif sur la société.
Complètement. C'est notre point de départ. En fait, je pense que... Alors, tous les trois, on est à peu près du même âge, je pense. Années 80, c'est le grand âge des consoles de salon, grand âge des jeux vidéo. Et on a vécu... Enfin, en tout cas, moi... Peut-être pas pour vous, mais moi et mes associés, on a vécu une époque pendant laquelle en fait, les parents, les associations de parents et les autres médias ont souvent décrié un petit peu le jeu vidéo. On a beaucoup parlé des comportements violents, des comportements addictifs du jeu vidéo. Et nous, on a vécu avec ça alors que c'était notre média. Et on avait fortement envie en fait, de montrer que ce média-là peut apporter beaucoup de positif dans la vie des gens et qu'il ne faut pas le stigmatiser sur ces côtés-là.
Et c'est en fait pendant que vous préparez votre thèse que vous vous rendez compte qu'il y a une de vos collègues de bureau, qui est d'ailleurs devenue une de vos associées, qui détourne la oui, la fameuse oui hein, qui a fait fureur, pour faire de la rééducation post-AVC.
Complètement. Alors, c'est marrant parce que la oui n'a pas tant que ça fait fureur. Au final, la oui a beaucoup démocratisé un usage du jeu vidéo familial, ce qui est une des positions de Nintendo. Mais pour les joueurs dans notre domaine. Voilà, pour les joueurs qui passent beaucoup de temps à jouer,
oui.
Les jeux mouvement, ce qu'a amené la Wii, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent.
D'accord.
Donc, d'un certain côté, en fait, la Wii a perdu des parts de marché auprès de ses joueurs passionnés, mais a trouvé un marché plus familial.
Donc. Quand vous apercevez de ça, qu'est-ce qui se passe? Vous décidez d'aller bricoler dans un garage?
Exactement.
Pour essayer de trouver de nouvelles applications?
C'est exactement ça. La Wii a été beaucoup détournée.
Qu'est-ce qui se passe dans les garages en France hein? C'est dingue.
Dans le monde.
Ouais,
dans
ouais.
Le monde. Beaucoup de belles boîtes démarrent.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
La Wii est beaucoup détournée du coup pour faire de l'activité physique adaptée dans des maisons de retraite.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, les jeux ne sont pas adaptés en termes de difficulté. Et parfois, il faut être vraiment capable de faire un grand geste ample pour réussir. Et parfois, à l'inverse, un tout petit geste va permettre de performer. Et du coup, les maisons de retraite, petit à petit, se désengagent de l'usage de la Wii, puisque ça ne plaît pas forcément au public. Et à ce moment-là, sort aussi une super technologie portée par Microsoft, le Kinect, qui permet de faire de la capture de mouvement. Donc là, on n'a plus besoin de manette. On filme en fait les mouvements de la personne et on est capable de les traiter numériquement. Et ça devient un moyen d'interagir dans un jeu. Et donc nous, on s'est positionné vraiment là-dessus.
Donc votre premier jeu, Hammer and Planks, le marteau et les planches, c'est ça?
Voilà, en français, le marteau et les planches, du coup.
Ouais.
C'est un jeu de pirate. Donc on pilote un bateau pirate et on va récupérer des trésors et des planches et des bouts, des débris de bateau pour reconstruire son bateau.
Donc on est obligé de faire des gestes.
Et alors tout le pilotage du bateau va se faire par différents gestes. Donc soit des gestes des membres supérieurs, des membres inférieurs, des mouvements de la tête, du transfert d'appui, de la marche. Et tous ces gestes-là en fait sont conçus avec des professionnels de la rééducation, donc médecins de MPR, médecine physique de réadaptation. Kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute, des gens qui viennent de STAPS aussi, donc
de filières sportives,
oui. Filière sportive, et qui sont qui aident les gens à se réentraîner.
Marie,
moi j'ai eu un vrai coup de cœur parce que j'ai vu une vidéo où on voit dans une maison de retraite plein de retraités en train de regarder un retraité qui essaie de faire naviguer le bateau sur l'écran en bougeant sa main, en bougeant son dos, sa tête, etc. Et qui après dit j'ai retrouvé une partie de son équilibre en jouant à ce jeu. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je voulais savoir par contre, est-ce qu'on peut jouer chez soi? Est-ce qu'on peut avoir cette utilisation chez nous ou c'est seulement dans les maisons de retraite, les collectivités?
Alors nous, on s'est plutôt positionné. Bon, déjà, votre retour est adorable. C'est ce qu'on recherche, donner du plaisir aux gens et puis changer le côté rééducation. Dans notre histoire de boîte, en fait, nous, on a décidé de se positionner plutôt sur les institutions, les centres de soins de rééducation, les EHPAD, les établissements handicap. Parce que c'est un usage qui est encore encadré, c'est conçu avec des soignants et c'est encadré, c'est fait avec les soignants. On rêve d'aller sur le domicile, c'est les objectifs à plus long terme, mais notre boîte est construite vraiment sur son chiffre d'affaires.
Et si donc, vous nous suivez sur Europe1.fr, vous pouvez voir les images en même temps, hein, bien sûr.
Ouais. Alors là, c'est un établissement handicap et c'est des personnes qui ont eu des chocs frontaux, qui font de la rééducation. Ah, donc le jeu est utilisé sur beaucoup de cas, beaucoup de pathologies différentes.
On dit le jeu, mais aujourd'hui, vous avez quand même une plateforme avec 6 jeux et une quinzaine de mouvements hein, qui peuvent être réalisés.
Tout à fait. C'est un ensemble de jeux pour qu'il y ait de la diversité de contenu, pour que ça touche à plusieurs rééducations, pour que ça fasse travailler du cognitif aussi. Et puis, on a plutôt fait le pari de faire des petits jeux courts pour que les gens vont surtout faire des petites séances de rééducation. Ils vont faire plusieurs jeux dans une séance. Et il vaut mieux qu'il y ait de la diversité plutôt que d'être tout le temps en train de jouer au même jeu.
Maud, on voit aujourd'hui effectivement les jeux vidéo faire leur entrée dans des lieux comme les EHPAD, on en parlait, mais aussi les hôpitaux.
Bien sûr, et on parlait de la Wii, et même si tous les jeux ne sont pas adaptés, on voit que c'est quand même la console qui est la plus répandue, parce qu'elle est accessible, parce qu'il y a quand même le prix aujourd'hui quand même des serious games hein, pour s'équiper. La Wii, ça reste facile, et il y a des jeux comme le bowling, comme le tennis, on voit que ça permet eh bien certaines personnes qui n'ont pas forcément besoin de rééducation, mais simplement pour lutter contre la sédentarisation, mais aussi contre l'isolement en maison de retraite, hein, pour pas toujours rester dans sa chambre, eh bien ces jeux, ça va venir aussi un peu stimuler toutes les fonctions psychomotrices des personnes âgées. Et voilà, c'est un vrai lien social aujourd'hui dans les EHPAD.
Je précise que vous allez être à la Paris Games Week et vous y êtes avec France Handicap.
Alors on y est déjà, parce que ça a commencé hier, la Paris Games Week. On y est pas avec France Handicap. France Handicap est un de nos partenaires. On développe des jeux.
Mais
avec
vous
France
parlez
Handicap.
Accessibilité avec eux.
Alors, voilà, on développe des jeux avec France Handicap pour l'accessibilité. Mais là, sur la Paris Games Week, on est invité par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels ludiques. Et on est avec l'association Cap Game, notamment, qui est l'association la plus importante en France sur l'accessibilité dans les jeux vidéo.
On reste ensemble et on continue à parler jeux vidéo et serious game aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et ce sont les serious games qui sont à l'honneur cet après-midi dans La France Bouge jusqu'à 14h.
Et si le jeu pouvait aussi aider les patients atteints de maladies chroniques, les maladies ophtalmiques notamment, eh bien c'est possible, figurez-vous. Bonjour Philippe Boucher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez rejoint Tilak Healthcare, qui a été fondée en 2016 par Ibionext, qu'on connaît bien ici sur Europe 1, qui est un incubateur français de start-up spécialisé dans la santé. Alors que vous aviez travaillé, je crois, chez Gameloft, dans le jeu vidéo.
Oui, pendant un peu plus de 10 ans, effectivement, avec Edouard Gasser, qui est notre PDG, qui est aujourd'hui n'est malheureusement pas avec nous.
Qui est à l'étranger.
Qui est à l'étranger, en effet. L'idée, c'était de se dire, on travaille dans le jeu vidéo depuis plus de 10 ans, on se connaît depuis 15 ans, et on pense que le jeu vidéo, comme mes confrères, a vocation à pouvoir apporter beaucoup plus. Et donc, Odyssite, l'idée, c'est le travail, en fait, avec des médecins, le professeur Sell de l'Institut de la Vision, entre autres, et des professionnels du jeu vidéo qui essayent, en fait, de travailler ensemble et de voir comment on peut offrir une expérience pour les patients, et qui a une vocation finalement à faire un suivi des maladies chroniques ophtalmiques.
Alors vous avez décidé de suivre notamment la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qu'on connaît bien, hein, c'est une maladie qui est très répandue. Médicalement parlant, il faut que le patient soit suivi assez régulièrement, il faut faire des injections. Exactement. Pour essayer de freiner les choses. Vous êtes dit, et si nous, on pouvait l'aider par le jeu?
Alors c'est vraiment ces deux axes qui sont assez importants. Il y a ce besoin de suivi à distance. Finalement, on ne peut pas laisser les patients dans la nature, comme on dit, c'est important pour le médecin. On voit qu'il y a des déserts médicaux en France, il y a de plus en plus de difficultés à suivre les patients au quotidien. Il n'y a pas assez d'ophtalmos, la génération des baby-boomers va passer en retraite. Et finalement, là où le jeu devient intéressant, c'est qu'on est à la fois capable d'être validé cliniquement sur une partie de ce qu'on fait, ce qui va finalement renvoyer au médecin vos données d'acuité visuelle. Et c'est ça qui est assez utile. Et le jeu, lui, comme ils l'ont expliqué tout à l'heure, sur l'aspect cognitif, finalement, va vous aider à compenser. Je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, quand vous perdez un petit peu en vision, vous allez avoir un problème pour lire, la vision des contrastes, la vision des couleurs, du mal à déterminer les objets, du mal à reconnaître un visage. Et finalement, on peut mettre des stratégies en place pour vous aider à compenser. Alors, ce n'est pas votre œil qui va compenser, c'est votre cerveau qui va vous aider à compenser. Et ça, je crois que c'est un énorme changement. C'est le genre de choses que le jeu vidéo fait très bien depuis 20 ans et qu'on a essayé de mettre en place dans les serious games.
Alors moi, j'étais très étonnée parce que quand je me suis dit jeu vidéo, ophtalmo, forcément, j'ai pensé fatigue de l'œil.
Oui, et justement, c'est pour ça que l'expérience est assez limitée dans le temps. C'est vraiment lié aux nouveaux usages. Bon, finalement, en moins de 5 minutes, vous avez fait tous vos exercices au quotidien. Il y a eu d'autres entreprises qui ont essayé par le passé de faire des choses similaires. Il n'y avait pas de jeu. Mais effectivement, on demandait aux gens 30 minutes à une heure de travail. C'est fastidieux. On est sur une patientèle qui est un peu plus âgée. La moyenne, c'est 70 ans. Donc, effectivement,
donc qu'est-ce qu'ils font exactement avec Odyssey?
C'est très simple. Ils jouent au jeu. Donc, ça leur permet finalement, je dirais, de trouver des stratégies. En fait, on s'est basé sur des...
On débloque une sorte de puzzle.
Exactement.
Hein,
c'est des techniques de rééducation en basse vision. Sans rentrer dans le détail, c'est juste comment vous allez travailler, enfin, votre cerveau en l'occurrence,
oui,
pour essayer de compenser d'une manière ou d'une autre. Et vous avez des tests cliniques qui, eux, sont validés. Et les résultats vont être finalement envoyés à votre médecin qui va pouvoir vous suivre à distance. Et si jamais vous avez une baisse de vision qui est, je dirais, significative ou trop peu, on va dire, trop risquée, vous allez avoir une alerte. Et finalement, votre médecin va être informé, et vous aussi, qu'il faut prendre un rendez-vous, sans doute pour faire un test plus poussé.
Et on le voit en ce moment même sur Europe1.fr. Marie, vous étiez intriguée.
Oui, en fait, si je comprends bien, vous avez un double impact. Ça veut dire que vous permettez de détecter certaines maladies, de les suivre, etc. Mais aussi de rééduquer.
Alors, sur cette partie-là, c'est plus au niveau du cerveau. Attention, on ne va pas améliorer votre vision. On est un dispositif médical, ce serait, je dirais, hasardeux de vous dire qu'on le fait. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, de manière générale, la manipulation d'objets en 3D, les couleurs, gérer des objets en 3D ou dans l'espace, ça va améliorer la capacité de votre cerveau à compenser.
Et si on rêve, parce que c'est vrai que pour prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est souvent 3 à 6 mois et qu'il y a toutes ces zones rurales, ces déserts ruraux, comme vous l'évoquiez. Si on rêve, est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de jeu dans les pharmacies, chez les médecins généralistes, pour détecter certaines maladies de l'œil, par exemple,
Alors,
la suite
par la suite, ce sera possible. On a des choses en recherche et développement qui sont liées effectivement à l'ambliopie, qui sont liées à d'autres pathologies. L'œil est assez complexe. Et effectivement, d'un point de vue tant thérapeutique que d'un point de vue... je dirais contre la distance, on se rend compte que le potentiel est vraiment là.
Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ça a été reconnu comme dispositif médical l'année dernière, en mai 2018, que le jeu est sorti juste après, au début de l'été, et qu'aujourd'hui, il est disponible. C'est-à-dire qu'en gros, le médecin peut le prescrire.
Ah, mais c'est exactement voilà. Le cas. Aujourd'hui, on a à peu près 500 personnes.
Le prescrit.
Oui, qui l'utilisent. On a 80 médecins qui nous suivent depuis à peu près un an maintenant.
Et vous êtes en train de regarder si demain on peut effectivement effectuer. Pour l'instant, il est gratuit, mais
oui.
C'est envisageable de le développer et donc peut-être de le faire rembourser.
C'est exactement notre approche. Là, on travaille sur, depuis l'année dernière et l'année prochaine, à apporter ce qu'on appelle de la donnée de vie réelle et à constituer un dossier pour que les autorités, ce qu'on appelle l'article 51, qui est tout ce qui est l'univers de la télémédecine, de la sécurité sociale, je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui, mais effectivement, pour leur apporter la preuve médico-économique de l'intérêt finalement de notre solution.
Et moi, je peux le télécharger par exemple ?
Oui, bien sûr, vous pouvez télécharger la démo, vous n'aurez pas la version avec le médecin, mais vous pourrez pendant 30 jours tester votre vision, jouer au jeu, voir. Voilà.
Maud, les serious games ne sont pas qu'à destination des patients, hein, on va le préciser, ils sont aussi pour les professionnels de santé.
Exactement, ils passent de l'autre côté de la barrière, on va dire. Il y a un jeu notamment qui s'appelle Socrate, qui est à destination des médecins pour les sensibiliser aux maladies rares, parce que bien souvent le patient va errer comme ça de médecin en médecin généraliste, qui ne vont pas être capables de détecter une maladie rare. Et ce jeu, il est donc à destination des généralistes. Ils vont choisir un cas clinique parmi plusieurs. Ils vont essayer comme ça de faire un diagnostic et puis ils vont être mis en difficulté avec des indices au fur et à mesure. Et l'idée, c'est de provoquer ce réflexe de se dire c'est peut-être une maladie rare et pour réduire le délai de diagnostic chez le patient.
On reste ensemble et on continue à parler justement de ces serious games aujourd'hui sur Europe 1.
Cet après-midi dans La France bouge, on parle des serious games avec vos invités, Raphaël. Nous sommes avec Pierre-Alain Gagne, qui est cofondateur de Dowino, entreprise spécialisée dans la création de serious games à impact social, qui a notamment créé Smoke It End, mais pas que. Antoine Seyès, cofondateur de Naturalpad, qui commercialise MediMove, plateforme web de physio gaming à la rééducation. Et Philippe Boucher, qui dirige la production de Tilak Healthcare, qui développe Odysight, un jeu vidéo médical pour le suivi des maladies chroniques ophtalmiques. Notre coach aujourd'hui, c'est Marie Eloi, fondatrice du réseau Bouge ta boîte. Et à mes côtés, Maud Descamps qui nous éclaire aujourd'hui. Tiens Maud, justement, jouer à des jeux vidéo, ça rend plus intelligent.
Et oui, c'est la bonne nouvelle Raphaël. Il y a plusieurs études évidemment qui ont été publiées sur le sujet. Il y a notamment une étude publiée par des chercheurs allemands qui a été publiée en 2013 qui montre que jouer à des jeux vidéo accroît le volume de notre matière grise, notamment tout ce qui est jeux de stratégie comme StarCraft, Age of Empires, Bataille pour la Terre du Milieu. Eh bien, ce sont des jeux qui vont augmenter la plasticité de notre cerveau et donc développer toutes nos capacités cognitives.
On a parlé de pas mal de choses. Vous avez aussi tous les trois des projets qui sont en cours de développement. Alors, je ne veux pas révéler des secrets qui seraient bien cachés, mais Antoine Seyès, vous m'avez dit que justement, vous étiez en train de travailler sur Zether, c'est ça ? C'est quoi Zether ?
Alors, c'est ça. Zether, c'est un jeu en réalité virtuelle. Donc, vous pouvez mettre un casque et être totalement immergé dans le jeu. Vous pilotez une baleine volante et vous devez passer dans des cercles de poissons rouges pour libérer les poissons rouges. L'originalité du jeu, c'est que la conception du jeu est faite dans une démarche inclusive avec des personnes tétraplégiques de l'APF.
L'association des
Paralysés de France. Ex-APF, Association des Paralysés de France.
Donc voilà. Ça signifie qu'en fait, ces personnes vont pouvoir faire le jeu en bougeant leur tête, c'est ça ?
Mais tout le monde va pouvoir jouer à ce jeu, mais tout ce dont on a besoin pour l'interaction, c'est des mouvements de la tête. Donc on met tout le monde à égalité face à la difficulté au gameplay, enfin, aux mécaniques de jeu.
Marie ?
Alors j'ai bien compris que les serious games existaient depuis un certain temps et que moi je les découvre aujourd'hui. Mais je voulais savoir, on est quand même au début de ces jeux qui ont de l'impact ou qui peuvent avoir un impact positif. Si vous aviez tous les moyens possibles et les développeurs les plus talentueux, qu'est-ce que vous rêveriez, chacun d'entre vous, de développer comme jeu d'impact ?
Bonne question.
Très bonne question. Très bonne question.
Merci.
Pierre-Alain ?
Il faudrait plusieurs semaines de réflexion.
Je suis sûre que vous avez une idée... La cachée au fond
bien,
de votre tête.
Après, ça peut déjà être le cas. C'est l'avantage des univers ouverts, des jeux comme Minecraft. Potentiellement, en termes de créativité, on pourrait imaginer énormément de choses. C'est un jeu où on peut faire un peu ce qu'on veut, en fait. Et donc, en fait, ce serait de faire en sorte que ça vienne de la part des joueurs, qu'au lieu de vu qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, au lieu de se taper dessus ou de gagner de l'argent le plus possible ou tout ça, bah, qu'en fait, d'eux-mêmes, ils décident d'en faire des choses un peu
de changer
sociales
le monde
dans le jeu vidéo. Voilà.
Et de ne pas détruire, mais peut-être de construire, ce serait plus intéressant.
Ouais, c'est une idée comme ça. Vous en avez certainement.
Vous avez travaillé, vous, sur une cinquantaine de projets, et notamment, moi, ça m'a interpellé, un jeu pour que les parents d'enfants asthmatiques reconnaissent les crises et qu'ils aient les bons réflexes et les bons gestes.
Exactement, c'est un jeu qu'on a développé avec l'Université Paris-Descartes et Illumens. Et donc l'idée c'était de se dire qu'il y a beaucoup de parents d'enfants asthmatiques qui réagissent finalement assez mal aux crises. Soit ils pensent que c'est très grave alors que ça ne l'est pas, et ils vont aux urgences et ils embouchent les urgences, soit ils réagissent, ils pensent que c'est pas grave et qu'en fait ça l'est. Et du coup, bah voilà, ça perturbe beaucoup et ça coûte très cher à la société. Donc là on a fait un jeu de simulation où le parent va pouvoir saisir les critères de son enfant dans le jeu et reconnaître, avec des scénarios prédéfinis, des types de crises et devoir faire des actions. Est-ce que je fais rien ? Est-ce que je donne le traitement d'urgence ? Est-ce que j'appelle les urgences ? Est-ce que je donne un verre d'eau ? Il va pouvoir aussi sur le smartphone faire les gestes, les vrais gestes du traitement, donc mettre la chambre d'inhalation, etc. sur l'enfant pour améliorer toute cette partie-là.
Maud, il y a aussi un serious game à destination des enfants autistes.
Oui, un peu dans la même veine, hein, comment avoir les bons réflexes. Ça s'appelle Igolia, c'est un jeu qui est composé d'une dizaine de mini-jeux à partager. Ça joue soit sur tablette, soit sur smartphone. Et l'idée, c'est d'améliorer les échanges déjà entre les enfants et les parents, mais aussi de diminuer les comportements un peu compliqués quand l'enfant est face à une situation qu'il ne connaît pas, une nouvelle situation. Et puis, ça permet aussi de suivre les progrès de l'enfant progressivement, puisque les petits jeux sont enregistrés. Et ça permet donc aux médecins aussi de suivre sur une plateforme de santé les progrès de ces enfants autistes.
Philippe Boucher, on a parlé d'Odyssite, mais je crois que vous avez d'autres projets qui sont en cours, un partenariat notamment avec un hôpital de Harvard sur un projet pour l'addiction aux opiacés.
Oui, là effectivement, on va essayer d'aller vraiment au bout de la logique du Serious Game. Et finalement, c'est ce qu'on disait, c'est que l'expérience soit curative. Donc là, on va aller chercher quelque chose de thérapeutique. Ça va être beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus dur, parce qu'il faut aller chercher la preuve. Et là, on est face à des, je dirais à ce qui se fait de mieux, donc des médecins, des scientifiques, qui eux vont vraiment aller nous challenger sur tout ce qu'on fait depuis maintenant, quoi. Parce que le jeu vidéo fait 30-40 ans. Donc c'est vraiment intéressant.
Même question pour vous, Antoine. Les projets que vous auriez en tête, loin derrière, comme ça, le rêve, ce serait quoi
pour répondre à Marie ? Je ne sais pas si loin derrière, en fait. En ce moment, on est sur un jeu...
En fait,
vous nous en parliez tout à l'heure, on essaye d'aller aussi sur le domicile des gens. Et ce qui nous importe, c'est de trouver des solutions sur les smartphones pour faire du mouvement ou faire de la rééducation. Et donc là, un autre des jeux qu'on présente à Paris Games Week, c'est Rhythm Workers. Donc désolé pour les anglicismes dans les noms, ça se passe beaucoup comme ça dans ce domaine-là.
C'est pas grave, vous savez, après je vais être obligée de les écrire sur le site pour que tout le monde puisse les retrouver.
Alors il y a
vous
deux
en faites
H
pas.
Dans Rhythm Workers.
Ne vous en faites pas.
Et Rhythm Workers, c'est un jeu de rythme qui est fait pour tout le monde. On tape en rythme sur une musique et en fait ça permet d'améliorer les capacités rythmiques des gens, la sphère cognitive des gens, et c'est utilisé dans une rééducation de Parkinson.
Voilà. Maud ? Oui, une petite question sur le coût, parce qu'on voit aujourd'hui que c'est un des blocages peut-être majeurs, c'est que si on veut équiper les patients, comment on fait pour passer cette barrière du coût pour que tout le monde puisse avoir accès à ces jeux ?
Alors, on parle de MediMove du coup. MediMove, c'est un dispositif médical.
Qui est installé dans 96 structures à peu
97,
près, hein, je crois.
97, on en a deux qui sont prévus. Ne pinaillons
pas,
ne
pinaillons
voilà,
pas.
On va dépasser
Allez,
les 100 d'ici la fin de l'année. MediMove, on le propose essentiellement sur une formule à abonnement à 200 € par mois. Voilà, ou à l'achat à 7 200 €.
Donc là, pour le coup, effectivement, en abonnement, c'est pour toute une maison de retraite. C'est assez vite amorti.
Oui, au final, c'est un outil qui est utilisé, qui est vraiment pluridisciplinaire. Donc l'animation, l'ergothérapeute, la psychomote, en fait, c'est un outil qui sert à toute l'équipe et qui est utilisé plusieurs fois par semaine.
Même chose pour Odyssite, c'est quelque chose qui a un coût important.
Aujourd'hui, c'est gratuit pour le patient.
Gratuit, pour l'instant.
Pour l'instant, l'idée, c'est que ça restera gratuit jusqu'à ce qu'on arrive, on espère, au remboursement, pour que ce soit toujours gratuit pour le patient. Parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est si on arrive à faire cette démonstration-là, finalement, on apporte une meilleure qualité de vie aux patients. Et c'est ça qu'on veut faire.
Sur le coup, Pierre-Alain.
Ouais, je ne suis pas très d'accord. Moi, on dit que ça coûte cher, mais en fait, ça ne coûte pas cher. Enfin, si on prend l'exemple de Smokiton, par exemple, bon, pour le
ouais, on a dit 5,99€.
5,99€, c'est quand même moins cher qu'un paquet de clopes. Donc, pour arrêter de fumer, on est quand même capable, je pense, de dépenser moins cher qu'un paquet de clopes. Et puis, au-delà de ça, pour le coup, pour la société, un fumeur, je crois qu'il y avait une étude en Angleterre qui montrait que c'était... 20 000 € par an, un fumeur, une année de vie perdue pour les fumeurs, pour un fumeur. Smokiton, ça a coûté 250 000 € à développer. Donc même si on économise 10 années de vie à une personne, c'est rentable pour la société. Donc je pense qu'il faut aller au-delà du coût unitaire individuel, mais penser aussi à la société.
Vous l'avez fait, vous l'avez montré aujourd'hui qu'en tout cas, cette société, elle peut compter sur les Serious Games. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur Europe 1 dans la France qui bouge.
Europe 1.
On va rester ensemble et on va découvrir la Scourtinerie. C'est l'entreprise qui va bien. Elle est basée du côté de Nyons et aujourd'hui, elle nous fait, vous allez voir, remonter le temps. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Oui, et cette entreprise, figurez-vous, Céline, qu'elle va nous faire remonter le temps, c'est la Scourtinerie. Bonjour Arnaud Fer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous co-dirigez cette entreprise à Nyons, entreprise qui est toujours dans la même famille, hein, ce depuis 1882. D'abord, on va expliquer ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas la Scourtinerie. C'est un procédé très ancien pour pouvoir faire de l'huile d'olive, écraser les olives. Ceux qui nous suivent sur Europe1.fr vont pouvoir le découvrir, mais on va décrire. Qu'est-ce que c'est la scourtinerie ?
Alors, la scourtinerie, c'est donc l'entreprise que mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, donc Ferdinand et Marie Fer, ont fondée en 1882. Alors, le scourtin, pour en revenir à la base de cette entreprise, c'est un filtre destiné à la fabrication traditionnelle de l'huile d'olive. Alors, ça remonte aux Grecs et aux Romains, hein, ça remonte bien plus loin que 1882. Donc, on ramasse les olives, on les écrase sous des meules en pierre, la pâte obtenue, on la met dans ses scourtins. Alors, le scourtin, c'est une poche.
Une grosse poche. Une sorte de paille, mais ça n'est pas de la paille, hein. C'est comme voilà. Une corde.
À l'origine, c'était souvent de l'alfa, une herbe qui pousse dans le sud de l'Espagne et en Afrique du Nord, et avec laquelle on faisait ses scourtins en vannerie. Hein. C'était comme des paniers. Donc, ça a une forme de. C'est circulaire et une forme de béret, c'est-à-dire qu'il y a un rebord qui se referme. Et c'est pour contenir.
Et on va mettre
la pâte d'olive
à l'intérieur.
Après les avoir écrasées. On écrase les olives
d'abord
avec les noyaux.
La pierre.
Voilà, sous la meule, et la pâte obtenue va garnir l'intérieur de ces scourtins.
Une fois qu'on a mis la pâte, on va superposer comme ça les couches de paille, de scourtin.
Les scourtins vont être empilés comme un millefeuille, si vous voulez. Ouais. On place tout ça sous la presse, on presse.
Et là ?
Tout ce qui est liquide passe à travers, c'est-à-dire l'huile et l'eau, et la partie solide, qu'on appelle le grignon, reste à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on fait donc de l'huile en première pression, à froid.
Mais dites-moi, Ferdinand et Marie, au départ, ils avaient une entreprise de tissage.
Oui, tout à fait. Ils n'avaient rien à voir avec les scourtins.
Comment est-ce qu'ils arrivent à ces scourtins ?
Alors, je pense que ça, c'est lié à l'ingéniosité de mon arrière-grand-père, Ferdinand Fer, donc, qui a vu qu'à son époque, les scourtins commençaient à avoir de réels soucis. Il faut dire que les presses n'ont cessé d'évoluer au cours des siècles. Des presses à levier des Romains, on passe aux presses à vis en bois au Moyen-Âge, vis métallique, et on arrive dans les années 1880 en presse hydraulique. Parce qu'en fait, cette huile qui sort en première pression à froid, c'est la meilleure huile, donc on essaie d'en avoir le plus possible. Voilà.
Et il brevette la première machine à tisser les scourtins avec l'utilisation de la fibre coco.
Oui, parce que comme lui faisait des tissus avec Marie, il s'est dit un tissu est très résistant dans toutes les directions. Si j'arrive à tisser ce scourtin, il sera beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistant que ceux qui sont faits en vannerie avec cet alpha. Donc, il va réfléchir, concevoir, fabriquer lui-même et breveter en 1882 la première machine à faire les scourtins.
Gros succès, hein. On en fabrique, on commence à usiner même le scourtin.
Alors, disons que les moulins s'équipent de ces nouvelles presses et ont besoin de scourtins résistants. Et c'est là aussi qu'il introduit une deuxième nouveauté, c'est l'utilisation des cordes en fibre de noix de coco pour le tissage de ses scourtins. Alors, il a tout essayé. Hein. À son époque, il n'y avait pas de plastique. Donc, du chanvre, du sisal, des cordes en fibre d'aloès. Et finalement, on pense qu'il a dû voir ses cordes de fibre de coco dans la marine. C'était utilisé à l'époque en cordage de marine parce que c'est à la fois très résistant mécaniquement et en plus, ça ne craint pas l'eau. Donc, ces fameux scourtins, non seulement ils tiennent toute la saison pour la fabrication de l'huile, mais à la fin de la saison, on peut les dégraisser et les réutiliser.
Je vais avancer dans le temps, évidemment. Arnaud va mourir assez jeune, hein, 56 ans. C'est Marie Ferdinand. Mon Dieu. Je sais que c'est Halloween en ce moment, mais quand même. Il y a une grosse catastrophe qui va se produire. 1956.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est important hein, dans l'histoire de la scourtinerie.
C'est une étape capitale, puisque là, la scourtinerie va changer d'orientation au niveau de la production. C'est-à-dire qu'en 1956, il faisait trop chaud l'hiver, il va faire d'un coup très très froid polaire, tous les oliviers sont gelés, les moulins ferment, hein, à Nyons, là où nous sommes, 10 moulins en activité, après le gel, il en reste un. Voilà. Et c'est là que, en plus avec les événements en Algérie, guerre d'Algérie, indépendance Tunisie-Maroc, les marchés de là-bas ne sont plus porteurs. Donc c'est là que l'usine a failli s'arrêter. Mais comme ils avaient remarqué que les gens réutilisaient les vieux scourtins un peu abîmés, parce qu'ils finissaient quand même par s'abîmer, ils les recyclaient à l'extérieur de la maison comme paillassons devant la porte. Et l'idée, ça a été de fabriquer le scourtin qu'on a baptisé scourtin de Provence, marque de déposé. Et c'est là qu'arrive la couleur, etc.
Marie, notre coach.
Alors moi, j'ai regardé que vous êtes également sur TripAdvisor.
Ça, c'est
On peut visiter la scourterie.
La scourtinerie, tout à fait.
Scourtinerie, pardon. Et les visiteurs sont dithyrambiques. À la fois, ils parlent d'un voyage dans le temps, de personnes hyper sympathiques qui leur montrent vraiment toutes les ficelles, c'est le cas de dire, pour recréer les Scourtins. Ils disent que même le chien est sympathique chez vous, donc tout le monde...
Tout le monde est admis, oui.
Voilà, tout le monde est admis. Par contre, j'imagine qu'il y a de moins en moins de pressoirs qui utilisent les Scourtins, donc vous avez dû trouver d'autres évolutions, comme par exemple le paillasson, les ombreries, c'est ça ?
Les ombrières.
Les ombrières,
c'est le dernier produit, oui.
J'apprends tout ce vocabulaire-là. Oui. Quelles sont les prochaines évolutions ? Parce que cette entreprise qui vient de votre arrière-grand-père et arrière-grand-mère, elle doit être immensément importante pour vous. Quelles sont les prochaines évolutions pour que l'entreprise perdure ?
Voilà, donc le principal produit phare actuellement, qui est tout récent, comme on connaît bien cette matière, on a eu l'idée de créer des ombrières, c'est-à-dire pour se protéger du soleil, mais avec un tissage particulier, l'air passe à travers, l'air chaud va passer à travers, et par contre, vous ne recevrez qu'une partie des rayons du soleil.
Un peu comme les canis dans le sud. Hein.
Même idée, même sauf que ça résiste beaucoup mieux au mistral.
Ce qui est important dans le sud-est.
Et en plus, c'est terriblement esthétique.
Vous avez aussi eu une chance, c'est que vos Scourtins ont été pris par un réalisateur. Hein, on est dans les années 50, je crois, Jacques Tati. Et ça aussi, ça vous a mis en lumière.
Ah oui, puis alors c'était vraiment le moment, parce que c'était consécutif au fameux gel. Il n'y avait plus de commandes, hein, de 30 personnes dans l'entreprise, il n'y avait plus que 3 personnes. Et les accessoiristes de Tati ont dû découvrir les premiers Scourtins en décoration, paillasson. Ils ont fait le pas japonais devant la maison, devant le jardin, dans le jardin du film Mon Oncle. Et ça a mené beaucoup de curiosité, d'appels de gens à l'époque qui étaient bienvenus pour relancer l'activité de l'entreprise.
Et je vous invite à aller découvrir la fabrication, parce que vous travaillez toujours avec des machines artisanales et la finition à la main dans la Scourtinerie à Nyons. Merci d'être venu nous raconter cette belle histoire aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Marie qui était notre coach. On se dit à demain. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 14h.